I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir, ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Ce bruit que vous venez d'entendre, c'est celui de l'appareil argentique au moment où on prend une photo. La photo en question, on ne la découvrira que dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, lorsque la pellicule sera terminée, qu'elle sera développée et que les clichés, désormais visibles sur des négatifs, seront tirés sur le papier. C'est tout un processus, la photographie argentique, et on n'est plus vraiment habitué à ça. C'est un processus long, bien plus long qu'avec le numérique, et qui demande de la patience, mais aussi une certaine maîtrise technique en fonction de l'appareil que l'on utilise. On fait la mise au point, on vise et on appuie. La semaine dernière, Estelle et Victor vous ont expliqué leur parcours pour essayer d'avoir un enfant ensemble. Et c'est un parcours long qui demande de la patience, de vouloir devenir parent. Et c'est pour documenter ce long chemin que Victor, photographe, a décidé d'avoir toujours un appareil sous la main pour immortaliser ce qu'ils vivent tous les deux, Estelle et lui. Estelle avait déjà fait une fausse couche en 2018 lorsque Victor lui propose, un an plus tard, au moment où une seconde grossesse débute à l'été 2019, de commencer à prendre des photos. Alors pourquoi prendre des photos? Eh bien pour passer le temps, pour prendre du recul sur ce qu'ils vivent, parce qu'ils savent que pour cette seconde grossesse, qui s'avère être en fait une grossesse extra-utérine, rien ne sera simple. Depuis ce mois d'août 2019 et depuis cette conversation lancée dans un hamac pendant des vacances dans la Drôme, Victor a lancé ce projet intitulé « Cicatrice ». C'était d'abord un projet personnel et c'est devenu un parcours photographique public qui dévoile des instantanés du quotidien. D'un quotidien. Celui d'un couple qui essaie d'avoir un bébé. Parce que si l'important est de voir ce qui est invisible pour les autres, pour reprendre une citation du photographe Robert Franck que j'avais déjà cité dans la première partie de l'épisode, l'important, c'est aussi de montrer ce que c'est, pour de vrai, le parcours pour essayer de devenir parent, la grossesse extra-utérine, la grossesse qui s'arrête, les règles qui reviennent alors qu'on espérait être enceinte, et la culotte menstruelle tachée de sang. Ce que c'est aussi, l'attente dans les couloirs de l'hôpital, les consultations en visio, les rendez-vous médicaux à la chaîne, les stimulations, les piqûres, les cachets à avaler, la fatigue, la lassitude, l'impuissance, l'espoir, l'amour, le quotidien d'un couple et la place d'un homme dans un protocole de PMA. Ce que c'est aussi le besoin de marcher, de prendre l'air, de respirer. Bref, ce que c'est d'espérer devenir parent. Le photographe, c'est celui qui voit et qui a ce superbe pouvoir, avec les images qu'il crée, de montrer ce qui est tapis dans la pénombre des vies intimes, dans la pénombre de la parentalité. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Au revoir podcast, épisode 17, deuxième partie, Estelle et Victor, révéler les difficultés pour devenir parents.
Pour photographier le quotidien, le temps qui passe, des choses comme ça, ça pour le coup, j'ai mon appareil qui est tout le temps à disposition, par là, qui est tout le temps chargé, c'est de la pellicule. Il y a une jolie lumière, il y a un truc qui se passe dans l'appartement, quelque chose qui m'évoque une émotion, un moment particulier, je prends mon appareil et je photographie, et puis je photographie. Et ce qui est d'ailleurs assez cool avec l'argentique et surtout ces pellicules qui, c'est des 36 pouces, donc, parfois je fais des photos, une pellicule, et elle s'utilise sur un mois entier, et donc il y a des photos que j'ai prises à un moment donné, à un état d'esprit donné, que je redécouvre plus tard, et que je trouve qui s'intègre bien dans la narration. Ça peut être aussi des moments effectivement où on a décidé, c'est-à-dire que typiquement là pendant la stimulation, les injections pour la FIV, on avait prévu le coup déjà en octobre. On s'était dit là c'est des moments importants qu'il va falloir prendre en photo, que ce soit les injections ou d'autres moments, même dans le moment où on sait que qu'Estelle va craquer parce que ça va être dur émotionnellement, parce que les hormones vont tout chambouler. Donc on avait passé un pacte, mais qui est en fait le pacte qu'on a depuis le début, c'est-à-dire que je prends mon appareil, je prends des photos quand je veux, entre guillemets, sauf si tu me dis là c'est mort, tu me prends pas de photos, sauf quand moi je sens qu'évidemment là c'est pas le moment de prendre des photos, c'est-à-dire qu'il faut que je sois présent parce que je suis pas extérieur à ce qui se passe, je suis complètement partie prenante. La dernière chose, c'est le droit de regard d'Estelle. Je lui montre absolument tout. Et s'il y en a qui trouvent qu'elle aime pas ou qu'elle veut pas qu'on diffuse ou je sais pas trop quoi, celles-ci, elles sont pas retenues, quoi. Elles sont mises de côté et puis c'est tout. C'est vraiment un projet à deux. Et je lui montre tous les étapes. À chaque fois que je refais un editing, je lui montre l'editing, comment il est fait, puis elle me donne son avis, et puis on essaye de construire quelque chose ensemble. J'imprime les photos en grand, on les étale par terre, et puis on les regarde, on les organise, on essaye de raconter quelque chose à nouveau. Donc elle me donne aussi sa vision, son avis, ses préférences.
Mais il y a aussi un cas de figure dont t'as pas parlé, c'est les photos où je pleure. Et toutes les photos où j'ai l'air vraiment au fond du gouffre, qui sont les photos de la vraie vie, et où il m'a demandé si il pouvait me prendre en photo. Mais en général, ça fait déjà un moment que je suis dans un état que ça va mal. Et on s'est déjà parlé, enfin... C'est pas il a pas pris une photo avant d'essayer de voir comment j'allais et voir ce qu'il pouvait faire, quoi.
Je guette pas l'alarme d'Estelle.
Non.
Pour en me disant là c'est le moment.
Oui, non, c'est ça, non, il me demande s'il veut prendre des photos et en général, enfin, et quasiment à chaque fois j'ai dit oui. Il y a 2-3 photos effectivement que j'ai refusées, mais pas du tout parce que je les trouvais impudiques ou quoi, mais plus parce que cette photo je la trouvais trop violente, mais pour moi dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là. Ce que personne ne voit en regardant cette photo-là, mais qui, moi, me rappelle... Il y a des photos, mais que j'ai acceptées, enfin, qui font partie du projet, que je trouve, pour moi, très dures à regarder. Mais parce que je sais très bien à quoi elles me replongent directement dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, de ce jour-là, etc. Et en même temps, il y a plein de photos que, si on n'avait pas faites, j'aurais du mal à me dire aussi... Il y a quelque chose de concret aussi on est passé par ces étapes-là, on a vécu ça, et là, c'est vrai que j'allais vraiment mal, et là, ça va vraiment mieux. C'est le point positif des photos.
Ouais, c'est vrai. Le jour de la ponction, j'avais pris pour aller à l'hôpital, je l'ai pris dès le matin, à 7h du matin, et voilà, j'ai essayé de photographier un maximum de choses. Sachant que, après, il y a des choses qui sont assez difficiles à prendre en photo, enfin, c'est un peu des challenges, ne serait-ce que l'attente à l'hôpital. Le moment où on est seul pendant des heures en tant qu'homme, c'était une manière vraiment de m'investir, d'être plus présent dans le parcours, parce que sinon on est vachement à côté. Il faut faut bien se dire que pour les hommes qui sont moins fertiles, il y a très peu de choses qui sont demandées de participation dans la PMA. Voilà, il suffit pas de temps en temps éjaculer dans un petit pot, faire un recueil de paillettes de sperme, parce qu'en plus on éjacule des paillettes. Voilà, sinon en fait il y a très peu de choses qui sont faites par l'homme d'une manière générale, donc je pense que certains hommes s'en contentent très bien, mais c'est, je trouve ça, moi, pour ma part, très frustrant. Bah, alors on fait ce qu'on peut, on soutient, on fait des choses ensemble, on se projette, on tout ça, mais il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, et il y a plein de choses pour lesquelles on peut pas faire grand chose non plus, quoi. Voilà, on peut pas prendre les injections à sa place, même si on aimerait bien, même si elle aimerait bien.
L'idée de documenter les photos, mm-hmm. Non mais c'était que ils participent à tous les rendez-vous.
Oui, voilà,
et qu'ils viennent à tout.
J'y arrivais
mais tu y arrivais pas.
j'y arrivais doucement. Et d'ailleurs, la plupart des médecins et puis des infirmiers et des infirmières ont carrément joué le jeu en disant ok, pas de souci. L'autre fonction, comme on disait, c'était effectivement de prendre du recul. Ouais, avec les outils qu'on a, et c'est quelque chose que d'ailleurs je conseillerais à beaucoup de gens, s'ils ont une pratique artistique quelconque, d'essayer d'en faire quelque chose, d'essayer ou tout simplement à recueillir sa parole. On peut prendre n'importe quoi, on va s'enregistrer petit à petit, et peut-être que ça va nous aider à réfléchir les étapes par lesquelles on passe, et les étapes psychologiques dans lesquelles on est, les émotions par lesquelles on passe. Moi, je trouve ça, enfin, en tout cas, parce que c'est vraiment précieux. C'est un témoignage, et autant qu'une thérapie. Et surtout, quand je l'ai posté sur Instagram, il y a plein de gens qui sont venus me contacter, de personnes que je connaissais plus ou moins vaguement, ou d'anciennes connaissances, qui sont revenues vers moi, qui m'ont raconté des histoires assez fortes de deuil périnatal aussi, mais aussi de parcours PMA très compliqués. Voilà, plein de choses qui sont arrivées. Alors, petite précision, évidemment, dans 100% des cas, c'était des femmes. Même quand je connaissais le mec mieux que... Enfin, dans le couple, je connaissais mieux le mec que la nana, c'était la femme qui venait me parler. Mais voilà, ça a permis d'ouvrir des espaces de dialogue, ça a permis d'ouvrir des choses, de se rendre compte que le travail qu'on faisait était... et touchait vraiment des gens, quoi. La grossesse, la parentalité, et donc la maternité, est vécue comme une chose de femme, et donc ce serait que les femmes qui auraient le droit de s'investir émotionnellement. Le père est attendu à partir du moment où il y a un truc qui bouge et après un truc qui est sorti du ventre, quoi. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Il y a plein d'hommes qui vivent très mal la chose, mais qui osent pas en parler, qui par convention ne vont pas s'ouvrir sur ce genre de problème, ou alors vont s'en ouvrir de manière très très restreinte. Ça va être avec leur femme. Moi, ça a été mon réflexe d'ailleurs au départ, hein, de m'en ouvrir essentiellement à Estelle et pas à d'autres, parce que je considérais que j'avais pas à souffrir. Je considérais que c'était pas mon rôle, entre guillemets. Je pouvais pas m'autoriser le luxe du deuil, le luxe de la souffrance. C'était pas à moi de faire ça, parce que c'est pas moi qui avais vécu ça dans mon corps, parce que c'est pas moi qui avait vécu la fausse couche.
La parole se libère pas mal, etc. C'est très bien. Mais c'est effectivement que des femmes. C'est des podcasts tenus par des femmes, pour des femmes. Ou alors c'est des comptes Instagram tenus par des femmes. Et c'est essentiellement des femmes qui commentent. Donc moi, je trouvais ça bien aussi que ce soit pas moi. Je suis sur toutes les photos, mais que ça soit pas moi qui porte le projet. Que ça soit pas encore la parole d'une femme, la vision d'une femme. Enfin, c'est pas intéressant, hein. C'est très bien, la vision d'une femme. Mais que pour une fois, il y a aussi un homme engagé qui s'en occupe. C'est son projet. Enfin, c'est notre projet, mais c'est lui le porteur de projet. Et c'est une autre vision. C'est pas.
Oui, moi d'ailleurs, ce que j'ai craint jusqu'à encore récemment, et où j'insistais pour qu'Estelle prenne une place un peu plus importante dans ce projet, c'était qu'il y ait une sorte de comment on pourrait dire ça, de male gaze, de la vision d'un homme, d'un photographe homme sur sa compagne et sa femme. C'est un truc que j'ai vu beaucoup trop souvent, d'une manière générale, pas dans ces cadres de l'intime, mais de l'homme qui photographie sa femme de manière en noir et blanc de préférence, et de manière sensuelle. Mais voilà, j'avais très peur que ce soit vraiment vécu par des personnes extérieures comme une vision d'homme sur un corps de femme, sur un vécu de femme.
Moi, je trouve pas du tout que ça soit ça qu'on ressente, d'une part parce que tu le vis aussi.
Oui, non, mais tant mieux. Donc, je suis très content si c'est passé comme ça. Pour l'anecdote, quand on a commencé le projet, peu de temps après, on s'est dit qu'on allait l'ouvrir en fait et prendre des photos d'autres personnes et d'autres couples et d'autres femmes qui auraient vécu ça. Et d'ailleurs, on est allé voir une amie d'Estelle qui venait de faire aussi une grossesse extra-utérine. Pour qu'on en discute et tout ça et qu'on fasse des photos. Et en fait, très rapidement, on a compris que il y aurait quand même un énorme déséquilibre entre les photos que j'arrive à faire d'Estelle et les photos que je pourrais faire d'autres femmes ou d'autres couples d'une manière générale, où je pourrais pas être justement tout le temps là avec mon appareil photo à porter s'il se passe un truc, s'il y a un moment particulier, un moment d'intimité, un moment de... Voilà, donc ce serait beaucoup trop déséquilibré. C'est un projet qui est possible, je pense, à faire quand on n'est que extérieur à ces situations et qu'on ne prend pas des photos nous-mêmes de notre quotidien. Mais là, le projet très rapidement, on s'est dit, il sera fort que si c'est nous en fait. Ça a été une révolution un peu copernicienne pour moi de retourner l'appareil. Aussi, non mais bien sûr, mais je veux dire.
Je voulais pas être le centre du.
Il y a quelques photos qui sont de la mise en scène parce qu'on essaie de pas trop s'interdire des moments aussi de s'amuser un peu avec l'appareil photo. Pour en revenir aux photos où j'apparais, effectivement il y en a pas beaucoup. Oui, celle où je suis en pyjama en train de préparer la seringue, c'est Estelle.
Non, en fait la plupart des photos où il apparaît. Quand il est tout seul, c'est moi qui les ai prises. Les seules photos qui sont avec un retardataire, c'est celles où on est tous les deux.
Ouais, complètement.
Moi, après la fausse couche, je m'étais pas mal renseignée sur les fausses couches, qu'est-ce que c'est, etc. Et donc j'en étais arrivée à les fausses couches dans la littérature, les fausses couches dans l'art et tout ça. Et comme tout le monde a Frida Kahlo, parce qu'il y a que Frida Kahlo qui a représenté des fausses couches, et à me dire en fait il y a quand même aucune représentation, ça n'existe pas, ou alors ça existe, dans des films, mais c'est très peu évoqué. Enfin, je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et c'est aussi pour ça que je trouvais ça bien, le projet photo, parce qu'à un moment donné, ça, j'ai bien aimé écouter des podcasts, lire des témoignages, mais je trouvais qu'il manquait d'autres formes de visuelles ou formes d'art où on voit quelque chose, quoi. On voit autre chose. Et après, je suis pas du tout à l'aise avec mon image dans l'absolu. J'aime pas mon ventre, il y a des cicatrices, enfin c'est pas des photos que j'ai envie d'afficher chez moi et c'est pas des photos qui me font nécessairement du bien, mais je trouve qu'elles apportent quelque chose. Moi je pense qu'à partir du moment où on acceptait de documenter ce qu'on vivait au quotidien, on acceptait de tout montrer. De tout montrer, parce que c'est l'objectif, c'est de dire comment ça se passe réellement, donc ça sert à rien de faire des photos glamour... de moi en robe qui fait une injection à tout sourire, en fait c'est pas ça la vraie vie, donc tout est montrable avec quelques limites, c'est-à-dire que ça soit pas vulgaire, que ça soit pas, je sais pas, dégradant, intrusif. Après en vrai j'ai jamais dit non parce que ça s'est pas posé, parce que Victor aussi a pas fait de photos à des moments où ça se prêtait pas, mais il y a aucune photo qui moi me choque ou me dérange, ou si après voilà il y a des photos où on voit des seins, mais des seins on en voit partout, donc voilà, à un moment donné voilà c'est les miens, enfin bon je m'en fous, voilà qu'on voit ma peau, c'est pareil, enfin
d'une part, au début, le sang, j'ai voulu photographier le sang pour photographier donc les règles, dans le sens où C'est l'échec de tous les mois quand on essaye d'avoir des enfants et que ça marche pas. Donc c'est le repère temporel, quoi. C'est vraiment tous les mois, ça revient. Ah, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Parce que c'est vrai que dans ces moments-là, où j'allais récupérer Estelle à la petite cuillère pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'on essaye, on reprenne de l'espoir. C'est aussi une manière pour moi d'essayer de reprendre en photo ce que j'ai pas pris en photo lors de la fausse couche.
La première fausse couche,
c'est celle que je ne prendrai jamais en photo. Mais de toute façon, d'une manière générale, tout ce projet photo est aussi, je sais pas quoi, un hommage à cet enfant qu'on n'a pas eu.
Et c'est pour ça que ça s'appelle cicatrice aussi, parce que c'était suivre aussi les évolutions de ces cicatrices-là, des cicatrices de la célioscopie et du ventre, qui en fait, sur la première photo, il est gonflé avec des grosses cicatrices et au fur et à mesure, il diminue. Dans quasiment toutes les photos, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, c'est au réveil, les photos où je pleure, elles sont sans filtre. C'est pas des, enfin voilà, il y a un moment c'était aussi montré, c'est pas des photos qui se veulent des photos belles d'une mannequin qui raconte une grossesse, quoi. Et au contraire, c'est un peu toutes les photos qu'on voit aujourd'hui de grossesse, aujourd'hui ou tout le temps, hein, c'est des photos glamour de femmes minces, épanouies. Déjà, il y a aucun corps qui soit pas un corps hyper normé. Mais en plus, c'est toujours très beau, très maquillé, très coiffé, très je ne sais quoi, quoi. C'est Beyoncé qui pose en une avec... ou Demi Moore avec son gros ventre. Et donc, oui, c'est tout est montrable, en tout cas, dans l'idée de documenter et dire réellement ce qu'on vit. C'est après, sinon, c'est des photos Instagram belles qui ne disent pas la vraie vie. C'était pas l'objectif. Moi, je suis journaliste. Si je veux montrer quelque chose, c'est la vraie vie. Donc, c'était dire aussi, nous, on va montrer ce qu'on vit vraiment, tout en sachant pas vraiment ce qu'on allait vivre, mais en tout cas, ce qu'on vit vraiment, c'est ça, et nos états d'âme, ils sont vraiment là. Alors, on voit surtout les miens, on voit pas ceux de Victor, mais malgré tout,
ils
transparaissent quand même un peu.
Mais j'essaie de les faire transparaître dans les photos du quotidien, où on voit pas forcément Estelle, ou voilà, où on peut... On peut essayer de retracer un état d'esprit plutôt que effectivement un truc plus frontal. Mais c'est vrai que la question s'est posée de ce qui était montrable, pas montrable. L'idée c'était que moi ma photographie d'une manière générale elle se veut en tout cas plus évocatrice dans ces sujets-là que frontale. Comme l'idée c'est aussi de plus voir l'impact dans le quotidien et l'imbrication qu'il y a de ce travail-là, enfin de ce parcours-là dans la vie quotidienne. Il y avait une limite en fait à montrer quelque chose de super frontal. Ça aurait pu être super médical, ça aurait pu être entièrement voilà, et puis j'aurais pu insister vachement pour photographier l'opération en elle-même de ponction, photographier je sais rien l'opération de grossesse extra-utérine. J'aurais pu insister pour photographier ça, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est plus l'imbrication encore une fois du quotidien et du médical et comment le médical finit par investir tout notre quotidien. C'est aussi pour ça que les photos n'ont pas vraiment de légende à part le jour où elles sont dans un journal, mais c'est pour que que l'expérience soit plus universelle qu'un parcours de PMA, qu'on puisse se reconnaître. Je sais pas, ne serait-ce qu'un couple qui aurait vécu une maladie grave ou n'importe quoi, de voir à quel point ça peut prendre. J'exagère, ce n'est pas une maladie grave la PMA, mais
il faut quand même l'attente d'un enfant, même des gens qui essayent quelques mois d'avoir un enfant où ça marche pas, enfin tu vois.
Oui c'est ça, oui. Ou qu'on peut s'identifier à plusieurs états sans avoir forcément le vécu précis de nous ce qu'on a vécu. Je sais pas si ce projet se terminera d'une manière générale. Bah si si Estelle tombe enceinte et puis on a un enfant jusqu'au bout, est-ce que je continuerai la photographie jusqu'à la naissance, ou est-ce que peut-être que je changerai un truc, peut-être que je passerai en noir et blanc, peut-être, je sais pas, il y a plein de possibilités là-dessus. Mais le plus important, enfin un truc très important pour nous dans ce travail, c'était et dans la diffusion de ce travail, c'était que ça se fasse maintenant, alors qu'il n'y ait pas de fin en soi. Dans le sens où, dans l'écrasante majorité de tous les trucs qu'on a pu voir, c'est qu'il y a une fin, heureuse souvent. On a souvent l'obsession de cette fin heureuse, de que on a le droit de raconter son histoire une fois qu'il y a eu une fin heureuse. On s'accorde de et c'est d'ailleurs une obsession, ça a l'air d'être un prérequis pour beaucoup d'éditeurs ou pour beaucoup de gens de la presse ou tout ça, qu'il y ait une sorte de fin heureuse à ce genre de choses. On peut pas imaginer une fin non heureuse. Donc j'ai rarement vu des choses avec une fin non heureuse, parce que je pense qu'il y a pas vraiment, quand la personne n'arrive pas à avoir d'enfant, que le couple n'arrive pas à avoir d'enfant, je pense qu'il se projette dans autre chose, donc il n'y a pas vraiment de fin. Et nous, on ne sait pas si on aura un enfant à la fin, tu vois, on n'en sait rien. Et au fond...
C'est pas la question, en fait.
Au fond, c'est pas la question de ce projet. La question n'est pas de savoir s'il y aura une fin. Peut-être qu'on l'arrêtera maintenant et qu'on laissera le spectateur en suspens.
Non, mais parce que qu'on ait un enfant ou pas, on sera passé par tout ça. Après, ce qui était important pour nous, effectivement, c'est que ça soit publié alors qu'on n'a pas de fin, parce que les seuls témoignages qu'on a lus ou qu'on a vus, c'était effectivement des gens où à la fin, il y avait un bébé. Et c'est ce que tout le monde nous racontait de « mais à la fin de tout ça, vous aurez un enfant ». Et moi, je voulais surtout pas qu'il y ait une photo de bébé rose et joufflu qui efface tout le reste et qui fasse « ah bah oui, c'est vrai, vous avez vécu des trucs, mais ah là là, regardez ce bel enfant, vraiment, vous avez le plus bel enfant du monde ». Mais c'est pas... Voilà, c'est en fait, quelque part, ça écrase tellement le reste de l'histoire que c'était important qu'il n'y ait pas ça et que les gens puissent pas s'arrêter. Mais c'est une question qu'on nous a posée hein, quand ça a été publié, de « pourquoi vous le publiez maintenant ?» Bah, on le publie maintenant parce que l'histoire est en cours, et qu'en fait, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de couples, l'histoire est en cours. Il y a quand même des mois, des années où il se passe des choses et où on a le droit d'exister aussi et d'avoir la parole aussi, quoi. Déjà que t'as pas la place, quand tu fais une fausse couche, tu n'as pas de place pour exister, parce que quelque part ça n'existe pas publiquement. Mais en plus, tu peux pas le raconter tant que t'as pas un enfant dans les bras, quoi. Parce qu'on a raconté tout ça à un moment donné à la fille de Victor, on lui en a parlé avant que ce soit publié, et elle nous a demandé si, quand on aurait un bébé, si on avait un bébé, on lui raconterait. Et donc, évidemment qu'on lui racontera qu'il y a eu des grossesses avant, parce que pour nous, elles ont existé, et que, voilà, enfin, tout ça existe, et le fait d'en parler publiquement fera qu'on en parlera aussi dans notre intimité, parce que ça va durer. Et quelque part, peut-être dans 15 ans, ça existera toujours pour nous, quoi.
Cet épisode un peu spécial touche à sa fin, et j'espère que cette balade photographique en compagnie d'Estelle et de Victor vous aura plu. Les photographies réalisées par Victor dans le cadre du projet Cicatrice ne sont pas encore visibles dans leur intégralité, mais certaines ont été mises en ligne sur son compte Instagram et dans le magazine Polka du mois de novembre 2020. J'ai également mis en ligne quelques clichés sur le compte Instagram d'Au Revoir Podcast. Bref, je vous mets tous les liens directs pour y accéder dans les ressources de cet épisode. Je tiens à remercier Estelle et Victor d'avoir partagé avec moi, mais aussi avec vous, leur histoire. Parce que le chemin qui mène vers la parentalité est bien souvent une affaire de couple, ça fait du bien de pouvoir entendre et écouter deux voix qui s'entremêlent. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Cryptic other language. Je vous remercie pour votre écoute et vos retours de plus en plus nombreux. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire « Lever le voile sur le deuil périnatal ». Je vous dis à très bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.